Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Baben Pongo Masimango.
Madame Issu, bonjour. À la une, ce renforcement de la coopération entre la RDC et la République du Congo, cela concerne la sécurité aux frontières tant fluviales que terrestres, avec un accent particulier sur la lutte contre les traversées frauduleuses. Le vice-premier ministre de la Défense et son homologue du Congo-Brazzaville ont entamé des discussions à ce sujet samedi à Kinshasa. Nous parlerons de la célébration de la Pâque. Dans son message, le cardinal Fridolin Ambongo appelle les chrétiens à une communion nationale profonde et leur demande aussi de privilégier le dialogue et la paix pour surmonter les divisions afin de reconstruire le pays. L'octroi du tenant lieu de passeport par la Direction générale de migration à Ouvira réjouit la population sur place. Notre invité François Iguilima de la société civile qui est dans cette partie du Sud qui veut expliquer en quoi les conditions d'octroi de ce document leur facilitent la vie. Bienvenue à cette édition. La RDC et la République du Congo décident de renforcer leur coopération sécuritaire. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre en charge de la défense de la RDC, Guy Kabombo Moidianvita, et son homologue du Congo-Brazzaville, Charles-Richard Mondjo, ont entamé samedi à Kinshasa des échanges sur des accords traduisant la volonté commune des deux pays. Cette coopération porte notamment sur le renforcement de la sécurité aux frontières fluviales et terrestres, avec un accent particulier sur la lutte contre les traversées frauduleuses. Ces informations collectées par Blaise Ndongala sont rendus ici par Jean Gandou.
Cette coopération bilatérale vise à consolider les partenariats militaires entre les deux Congo et à approfondir la coordination stratégique face aux défis sécuritaires communs de la sous-région. Selon le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Moidianvita, cette démarche s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la coopération militaire entre ces deux pays frontaliers qui possèdent les capitales les plus rapprochées du monde. Les deux ministres accompagnés de leur délégation prévoient plusieurs séances de travail avec les experts sectoriels des deux États. Ces échanges porteront sur le partage d'expériences, la coordination opérationnelle et le renforcement des capacités institutionnelles. Un atelier de réflexion réunissant les experts sectoriels des deux Congo est également prévu dans la continuité des travaux entamés en février dernier à Brazzaville. Séparés par le fleuve Congo, mais unis par des intérêts stratégiques communs, Kinshasa et Brazzaville entendent approfondir leur partenariat sécuritaire afin d'y apporter des réponses plus efficaces.
Face à la recrudescence du banditisme urbain, le gouvernement congolais décide de passer une fois de plus à l'action. Lors de la 85e réunion du Conseil des ministres vendredi dernier, le ministre de l'Intérieur a présenté les conclusions d'une réunion interinstitutionnelle organisée le 30 mars, rencontre qui a réuni le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Cette concertation avait pour objectif d'identifier les causes profondes de la criminalité urbaine et de proposer des mesures concrètes pour y faire face. Elle intervient dans un contexte marqué par plusieurs braquages récents à Kinshasa. Le point avec Christian Omakasinga.
Plusieurs résolutions sont issues de cette réunion interinstitutionnelle consacrée à la recrudescence de l'insécurité dans plusieurs villes du pays, dont Kinshasa. Les conclusions font état de l'implication présumée de certains hommes en uniforme, du manque de discipline au sein de certaines unités, de la prolifération des armes légères, ainsi que l'insuffisance des contrôles et des sanctions. Parmi les principales mesures annoncées figurent les financements accrus des opérations de contrôle visant à lutter contre les détentions illégales d'armes. Une instruction ferme a été également donnée au chef d'état-major général et au commissaire général de la police afin de sanctionner sévèrement les éléments impliqués dans la prolifération des armes légères. Le gouvernement prévoit par ailleurs l'intensification des audiences foraines afin de renforcer l'effet dissuasif de la justice. En complément, une cellule de suivi a été mise en place. Elle regroupe les ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature dans le but d'assurer un suivi rigoureux de la chaîne pénale. Ces nouvelles mesures font suite à une série de braquages enregistrés récemment de la capitale. Le 31 mars, un braquage a été signalé en mise à l'éleveur de la commune d'Ngalema, à proximité d'une agence bancaire. Plus tôt, le 16 mars, un bijoutier a été abattu à Yodo Sud.
Le 4 avril de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la lutte anti-mine. Au Kasaï Central, le centre congolais de lutte anti-mine contre les mines antipersonnelles et les restes explosifs de guerre a sensibilisé vendredi la population de la ville de Kananga. Selon sa coordonnatrice provinciale, plusieurs engins explosifs sont restés dans la région après la guerre des Kamuina-Sampo vers la fin des années 2010. L'objectif de cette activité était donc d'expliquer à la population comment se protéger face aux danger que représentent les mines et autres restes explosifs de guerre, ainsi que les dispositions à prendre en cas de découverte d'un engin suspect. Détails avec André Katendinga Lamoulumé.
À l'aide des mégaphones, les membres du Centre congolais de lutte anti-mine contre les mines antipersonnelles et les restes explosifs des guerres ont sensibilisé la population de la ville de Kananga aux dangers que représentent les mines et autres engins explosifs. Ils portaient également des calicots et des banderoles sur lesquels figuraient des messages de prévention ainsi que des photos de ces engins explosifs. Rose Okito, coordonnatrice provinciale du centre, indique qu'à la suite de la guerre de Kamuina-Sapu dans l'espace Kasai entre 2016 et 2017, plusieurs engins explosifs ont été abandonnés par les militaires avant leur départ. Elle précise que jusqu'à présent, ces restes de guerre constituent un réel danger pour la communauté.
Chaque fois qu'il y a passage des militaires, il y a engins explosifs. Nous interpellons les habitants de la chute Momo, les habitants de Nganza, tous nos 5 territoires, de faire attention.
Rose Okito invite la population, en particulier les femmes et les enfants, à ne pas toucher aux engins explosifs qu'ils pourraient découvrir, mais plutôt à alerter les experts de son centre pour leur évacuation en toute sécurité. Kananga, André Katendenga Lamoulume, Radio Okapi.
Situé dans la province du Congo central, Kamba, ville natale de Simon Kimbangu, va célébrer aujourd'hui la journée du 6 avril, décrétée fériée sur toute l'étendue du territoire national en République démocratique du Congo. Cette date rend hommage au combat du prophète et à l'éveil de la conscience africaine, tout en soulignant l'importance du devoir de mémoire envers une figure dont l'influence dépasse largement le cadre religieux pour s'inscrire dans l'identité nationale. 6 avril 2026, cette date marque également le 105e anniversaire de l'église kimbanguiste. À cette occasion, le président de la République, Félix Tshisekedi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, ainsi que plusieurs membres du gouvernement sont, selon la primature, attendus à Kamba, souvent désignée comme la nouvelle Jérusalem. Une grande célébration y est prévue en mémoire de cette figure spirituelle majeure. Venons-en à la célébration de la Pâque à présent. Cela a eu lieu hier dimanche. Dans un message adressé aux chrétiens congolais et dont une copie est parvenue à Radio Okapi samedi, le cardinal Fridolin Ambongo a appelé à une communion nationale profonde. L'archevêque métropolitain de Kinshasa invite les Congolais à incarner les valeurs du royaume de Dieu face aux épreuves. Il leur demande aussi de privilégier le dialogue et la paix pour surmonter les divisions afin de reconstruire le pays. D'autres auditeurs avec Ella Chimbalou au combat.
Dans son message, le cardinal souligne que la communion, loin d'être un concept abstrait, est une exigence évangélique et une urgence nationale. Elle appelle à un dépassement des clivages, à la guérison des blessures et à la restauration de la confiance. Il insiste sur le fait que cette communion doit se traduire concrètement dans les structures, les décisions et les comportements de chacun, dans un contexte marqué par des persistantes difficultés, violences croissantes, dégradation des infrastructures, déplacement des populations et occupation d'une partie des territoires. Le cardinal Fridolin Ambongo rappelle que la résurrection du Christ n'est pas une invitation à l'évasion, mais un puissant encouragement à rechercher les réalités d'en haut. Il s'agit, selon les messages, d'ancrer la vie quotidienne dans les valeurs fondamentales de vérité, de justice, de paix et de communion. Pour l'archevêque métropolitain, face aux défis qui assombrissent le paysage congolais, Pâques 2026 est présenté comme un moment propice pour un choix courageux du dialogue et de la paix. S'inspirant de la démarche du Christ ressuscité, le message encourage l'adhésion à des initiatives telles que le pacte pour la paix et le bien vivre ensemble, considérant le dialogue comme un chemin concret pour restaurer la communion nationale.
Nous sommes dans le Sankoro. Deux violentes pluies se sont abattues vendredi et samedi dernier sur le territoire de Lodja. Cela a entraîné des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Le tissu écologique et les infrastructures locales ont été touchés et cela perturbe la circulation des personnes et des biens. Explication avec Esther Dalafina.
Selon les premières informations recueillies, deux personnes dont un enfant de 2 ans ont été foudroyées lors de l'orage de vendredi. Deux familles se retrouvent également sans abri, leur maison ayant été frappée par la foudre alors qu'elles participaient au chemin de croix. La pluie a également perturbé les activités religieuses. Plusieurs paroisses ont dû réduire la distance de leur procession, surprise par des vents violents quelques minutes avant le début de l'exercice spirituel. Sur le plan matériel, une station de radio appartenant à un acteur politique a vu l'ensemble de ses équipements détruits par la foudre. Par ailleurs, la tête de ravin à Sangamukoy, située sur la nationale numéro 7 au quartier Fundji, a progressé rendant difficile l'accès à l'aéroport de Lodja pour les piétons comme pour les véhicules. Dans plusieurs avenues du quartier Kalemi, les eaux stagnantes ont été observées, accentuant les risques sanitaires. La semaine précédente, un adolescent de moins de 18 ans avait lui aussi été foudroyé dans les mêmes circonstances. Face à la répétition de ces incidents, une partie de la population de Lodja vit désormais dans la peur à chaque nouvelle pluie, redoutant de nouveaux drames. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Du côté santé, le constat est glaçant. Au centre Saint-Gabriel de Simisimi, la revue annuelle de santé 2025 révèle que plus de 300 femmes sont mortes en donnant la vie dans la province du Latchopo, un drame silencieux qui se joue durant l'accouchement ou dans les 42 jours qui suivent. Ces nouvelles de Jacques Mukonkole sont rendues par Ella Chimbalou.
Selon la sœur Thérèse Marie Mokaria, médecin chargé du programme de la santé des reproductions, le mal est structurel. L'isolement de la province depuis la chute de Goma bloque les produits de l'INFPA. Mais le coup de grâce est politique. Depuis 2017, le gouvernement provincial a désactivé la ligne budgétaire destinée aux soins. Sans argent public, les étagères de maternité restent vides. Au-delà de la rupture des stocks, c'est les murs de la pauvreté qui tuent. Faute des moyens, de nombreuses mères ne peuvent s'acquitter des produits prescrits, même quand ils sont disponibles. À cela s'ajoute une résistance culturelle, le rejet des conseils sur la planification familiale, ce qui fait exploser les grossesses à haut risque. Pour la sœur Mokaria, le gouvernement doit se ressaisir, mais la population doit aussi écouter les relais communautaires pour que donner la vie ne soit plus un arrêt des morts.
Nord Kivu, le Parlement d'enfants de Béni alerte sur l'absence depuis plusieurs mois dans la région des registres d'enregistrement d'enfants, notamment des registres d'actes de naissance. Ces situations qui jugent alarmantes au prix selon cette structure des milliers d'enfants de leur identité légale avec des conséquences majeures pour leur protection ainsi que leur accès aux droits fondamentaux. Georges Kambale Ngoumairi, porte-parole du Parlement d'enfants de Béni, explique ce qu'il en est. Il est au micro de Martial Papimukeba.
Aujourd'hui, nous décidons de quitter le silence par rapport à un problème qui semble être normalisé, étant donné que ce problème vraiment n'est pas tout à fait normal. Une situation qui inquiète l'avenir de plusieurs enfants et l'avenir de notre pays, parce que souvent on dit que l'enfant constitue l'espoir et l'avenir de tout un pays. C'est depuis quelques semaines que nous avons constaté que dans plusieurs bureaux d'état civil, il n'y a plus d'actes de naissance, ce qui nous a beaucoup inquiétés, notant qu'avec l'absence d'actes de naissance, quelle est la protection qui est réservée à tous ces enfants, étant donné que l'acte de naissance, c'est une pièce qui montre l'identité d'un enfant, qui montre la nationalité d'un enfant et qui ouvre plusieurs opportunités à un enfant. Mais aujourd'hui, nous avons constaté qu'il n'y a plus d'actes de naissance. Nous craignons que cela ne puisse causer des problèmes demain ou après-demain. Nous tenons à appeler le gouvernement à s'impliquer, de voir comment pallier à ces problèmes.
Contacté, Sylvain Kakule Lumbulumbu, chef de bureau de l'état civil à Béni, reconnaît la situation. Il affirme que depuis plusieurs mois, seules des procurations sont délivrées en lieu et place d'actes de naissance.
Actualité internationale.
Nous parlons encore de la Pâque à l'international. Lors de sa première bénédiction pascale hier sur la place Saint-Pierre devant plus de 50 000 fidèles, le pape Léon XIV a lancé un message de paix. Il a exhorté ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres à choisir plutôt la paix, non pas une paix imposée par la force, mais une paix forgée par le dialogue, non pas dans le but de dominer les autres, mais pour aller à leur rencontre. Le souverain pontife a aussi mis en garde contre une mondialisation de l'indifférence. Parlant de la guerre au Moyen-Orient, elle représente un risque sérieux pour l'Afrique selon l'Union africaine ainsi que la Banque africaine de développement BAD. Dans un rapport consulté samedi par l'AFP, les deux institutions mettent en garde sur le fait que ce conflit menace d'augmenter le coût de la vie et de freiner la croissance sur le continent. Le Moyen-Orient représente en effet 15,8% des importations de l'Afrique et 10,9% de ses exportations. Selon ce document, une perte de croissance de la production de 0,2% du PIB africain est prévue pour cette année 2026, soit si le conflit dure plus de 6 mois.
L'invité.
L'octroi du tenant lieu de passeport par la Direction générale de migration DGM à Ouvira suscite satisfaction au sein de la population. François Iguilima de la société civile d'Ouvira au Sud-Kivu revient sur les conditions de délivrance et le coût de ce document qui, selon lui, sont favorables aux requérants. Il s'entretient avec Jean Kassami.
François Iguilima, bonjour.
Bonjour Jean Kassami.
Vous êtes de la société civile et vous appréciez à juste mesure les tenants lieux de passeport introduits par la DGM. Pourquoi un document de voyage suscite-t-il autant d'engouement?
Ces documents viennent de répondre aux requêtes adressées par la société civile auprès des autorités tant provinciales que nationales sur l'accessibilité facile de passeport. En effet, c'est depuis ce lundi 30 mars 2026 qu'il y a une sortie officielle de ces documents, d'abord au profit des autorités locales et provinciales, parce que sur la question de la procédure, pour d'autres requérants, il faut adresser une requête motivée en sollicitation de ces documents qui attend évidemment une réponse. Et une fois que cette réponse est positive, on vous octroie ces documents qui s'achètent à $45.
En quoi cet tenant lieu est-il proche du passeport biométrique délivré au niveau national?
Ces documents permettent de voyager dans toute Afrique. Les États, évidemment, en collaboration diplomatique avec la RDC. Il est d'une durée d'une année, que cela nous permet de l'appeler demi-passeport. Ces documents vous permettent aussi d'arriver à Dubaï dans le cadre des activités commerciales. Il suffit seulement d'avoir un visa à poser sur ces documents pour faciliter le voyage. Mais nous devons signaler une chose, qu'après l'adhésion de la RDC dans East Africa Community, évidemment dans d'autres organisations internationales commerciales, ces documents facilitent davantage les commerçants qui peuvent se rendre à Dubaï avec ces documents et rentrer en RDC avec leurs marchandises. Ce qui doit affecter évidemment les prix sur le marché de marchandises.
Les plus grands bénéficiaires, dites-vous, sont les commerçants d'abord. Alors les autres catégories sociales en tirent-ils aussi profit?
En effet, c'est une suite beaucoup plus satisfaisante pour les commerçants, pour les patients, mais aussi pour le voyageur qui voudrait, par curiosité, connaître différents endroits. Aussi faciliter l'accès aux hôpitaux en Afrique du Sud, à Dubaï, au Cameroun, un peu partout.
Parce que nous parlons du passeport biométrique, on sait combien l'obtention de ces documents relève du parcours des combattants. C'est la même chose pour la délivrance de ces tenants lieux de passeport où ça s'acquiert facilement.
L'on doit rappeler qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme coercitif ou difficile pour arriver à accéder à l'octroi de ces documents. Parce que jusque-là, l'aide de la société civile observe que tout se passe dans la tranquillité et tout dans la normalité. Nous constatons à cet instant ici qu'il y a plusieurs demandes. Ça permet aussi à l'administration de la DGM d'avoir beaucoup d'argent parce qu'il y a plusieurs gens qui se rendent actuellement au VIRA pour solliciter ces documents.
François Iguilima, merci.
François Iguilima, membre de la société civile d'Ouvira dans le Sud Kivu. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Jude Mister Bilanda, mis en onde par André Mungu. Merci de votre attention. Excellente semaine.